paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio Lapourdi, bonjour. En réalité, je devrais dire joyeux Noël, ou bien Egouvin Eyot, Feliz Navidad, Buon Natale, Merry Christmas, et tant d'autres expressions qui signifient, avec des mots différents, un événement fêté joyeusement aujourd'hui, presque partout dans le monde. Au seuil d'une période où la nature semble morte, la fête païenne du solstice d'hiver saluait le départ d'un nouveau cycle, où le jour regagne progressivement sur le temps de la nuit. En secret, ce sommeil s'accompagne d'une maturation des graines avant la percée printanière. De même, autour d'un enfant nouveau-né, c'est avec émerveillement que l'on se recueille humblement devant le miracle de la vie qui se transmet par la grâce de l'amour entre un homme et une femme. La tradition chrétienne s'est historiquement associée à ce cycle pour célébrer la naissance du Christ, qui symbolise la victoire de la lumière et de la vie sur les ténèbres de la mort. Au-delà des frontières des cultures et des langues, seule la naissance du Christ fête universellement le bonheur de la vie, de l'enfant, de la famille, de la joie et de la paix. Il s'agit d'une démarche à la fois d'intériorité et de communion qui, le temps de quelques heures ou de quelques jours, remplit le cœur d'espérance, d'une certaine foi en la beauté et la bonté de la création et de l'humanité. En outre, pour les chrétiens, l'événement est encore plus mystérieux, car pour eux, l'enfant de Noël est né d'une vierge, par la grâce de l'Esprit-Saint. Tout repose sur une créature particulière, Marie, qui a répondu oui à la demande d'un ange, de la part du Seigneur, Dieu créateur, pour être la mère de son fils, ce qui fut. Une telle histoire n'est pas facile à recevoir par un esprit rationnel, pétri de pensées matérialistes et progressistes, de plus en plus influencé par des idéologies prônant le tout technologique au détriment de la nature et au profit d'un transhumanisme déshumanisant. Pourtant, l'annonce des prophètes juifs court depuis plus de 4 millénaires. C'est historiquement incarné selon le témoignage de personnages dont les écrits demeurent, depuis des siècles, comme les sources fondatrices inébranlables d'une bonne nouvelle pour tous les hommes et pour tous les temps. Comment croire à l'époque du post-christianisme ? La raison peut-elle accueillir l'expérience spirituelle ? Permettez-moi une digression pour jalonner notre démarche, en espérant y trouver une lueur de réponse. J'ai assisté au début du mois à une conférence sur les recherches en biologie marine dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Devant un public intergénérationnel, aussi étonné qu'émerveillé, le conférencier, docteur en la matière et spécialisé en planctonologie, présentait d'étranges êtres vivants découvert lors de sa récente campagne de prélèvement. La puissance de la vie, sa profusion dans son adaptabilité aux milieux les plus hostiles, sans lumière et soumise à des pressions colossales, s'exprimait en feu d'artifice dans chaque plante ou animal, attestant d'une créativité époustouflante orientée vers la survie en dépit de conditions extrêmes. Ce monde peuplé d'espèces encore inconnues constitue cependant la base du système alimentaire dans les mers et les océans. Il nourrit tout ce qui vit, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands des poissons et cétacés, jusqu'aux oiseaux accrochés au sillage de nos bateaux de pêche, jusqu'aux hommes qui, également, en dépendent pour beaucoup. Dans ces eaux primitives se trouvent les vestiges de toute biologie, les origines de la vie sur Terre. Une force vitale s'y développe en folie fantastique, aux limites de l'impossible, et cependant, elle s'y perpétue depuis plusieurs millions d'années. Devant cette incroyable vitalité des abysses, défiant les limites physiologiques actuellement admises, on pourrait parler de miracle de la vie. Toutefois, les scientifiques s'en tiennent à l'évolution des espèces, tout en constatant que certaines espèces sont totalement contemporaines des débuts de la vie. Le lendemain, 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, nous allions en pèlerinage à Lourdes. Sur la route, croisant la direction de Saint-Pé-de-Bigorre, où j'étais élève il y a plus d'un demi-siècle, je me remémore une conversation avec mon professeur de mathématiques. Suite à une présentation de la pensée de Teilhard de Chardin sur le phénomène humain, je l'interrogeais sur la capacité de l'homme à maîtriser le phénomène de la vie. Selon lui, esprit scientifique, cette ambition était réaliste dans un avenir relativement proche. J'avais intuitivement la conviction que ce n'était pas possible. La vie étant un don divin, et personnellement, je doutais et craignais à la fois qu'une telle mainmise de l'homme sur l'arbre de la vie se réalise. À Lourdes, nous retrouvions l'affluence multicolore pour la célébration de l'Immaculée Conception. On ne peut la dissocier des visions de Sainte Bernadette, la voyante de Lourdes, pauvre, fragile et illettrée, qui ne savait à 14 ans que le Notre Père et le Je vous salue Marie sont chapelets en poche ou en main, au cœur, à tout moment. Aucune pensée rationnelle ne pourrait imaginer qu'une vierge se ferait interpeller par un ange pour lui demander si elle accepte de donner naissance au Fils de Dieu par la grâce de l'Esprit-Saint. Cela relève plutôt d'une imagination fertile ou d'une fragilité mentale et peut-être victime d'une manipulation. Une fake news, dirait-on aujourd'hui. Plus grave, comment interpréter le comportement d'une jeune fille du 19e siècle qui prétend voir et parler à une dame perchée au creux d'un rocher dans un lieu proche du gave fréquenté habituellement par des cochons. Les journalistes de l'époque et de nombreux esprits éclairés ont tout de suite diagnostiqué soit la supercherie, soit la pathologie mentale. Nonobstant, cette dame s'est finalement présentée en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». L'expression, confirmant innocemment le dogme récent déclaré par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, provoqua un raz-de-marée de conversion qui touche depuis toutes les parties du monde. En outre, attesté tant par l'Église que par la science, une série de guérisons improbables se répand toujours plus d'un demi-siècle et demi plus tard. Guérisons jamais expliquées, malgré la gravité de certaines pathologies et la sévérité des critères pour caractériser ou non la présence d'un miracle. À travers ces visions, quel message nous transmet Bernadette avec ses paroles « Je suis l'Immaculée Conception ». S'agit-il encore des croyances issues des siècles de manipulations politico-religieuses pour enfermer les peuples dans des esclavages et des aliénations dirigées par les puissants de ce monde, comme le croient les esprits libres et rationnels? C'est sûr, un esprit moderne et affranchi de toutes les religions, croyances et superstitions ne peut en écouter plus sans lever les yeux au ciel. Pourtant, c'est ce qu'il a de mieux à faire, car c'est bien là que se trouve la réponse. Et si le ciel avait encore une bonne nouvelle pour l'homme d'aujourd'hui? La nature, dans sa matérialité cosmique et ses dynamismes inconnus, improbables, sinon impossibles, ne livre-t-elle pas progressivement de nouveaux secrets qui semblent miraculeux? Le créateur de la nature n'est-il pas capable d'offrir de temps en temps, dans le temps de l'histoire, des signes d'une réalité plus large que la seule raison parvient à percevoir? Et si l'homme rationnel, malgré son orgueil, source de tant de souffrance, se mettait à genoux devant le mystère de la vie, au lieu de chercher à la maîtriser, à la marchander, voire la renier au risque de la détruire. Alors, après une longue attente comme une sainte nuit de veille, Weihnacht pour les Allemands, viendrait vraiment une nouvelle naissance, Navidad pour les hispanophones, un nouveau jour, Eguberri chez les Basques, la messe du Christ, Christmas, pour les anglophones. Noël serait le temps d'une louange universelle et éternelle devant un enfant nouveau-né, souriant à la vie et au monde. Temps de la grâce, où Marie incarne avec son fils Jésus toute l'espérance de l'humanité depuis ses origines, c'est le temps de chaque jour, pour un cœur qui l'accueille. À Noël, chacun, au cœur de son cœur, se souvient de ses propres origines. L'écho des chants angéliques dans nos montagnes rappelle à chacun la joie et le bonheur pour lesquels il est créé. Aujourd'hui, quelle vie choisit-il? Écouter cet appel à la fraternité dans le cœur du Christ ou s'enfermer et rester prisonnier volontaire dans un individualisme égoïste et désespéré? Je voudrais conclure avec un texte d'un très influent philosophe français, Jean-Paul Sartre, dont la pensée, les écrits et la vie ont abandonné l'espérance pour un néant existentiel. Il n'a pas su refléter l'intuition parfois inspirée dont il était le témoin en ces moments de grâce. Il s'agit d'un extrait d'une pièce de théâtre réalisée pour Noël en 1940, Baryona ou le fils du tonnerre, quand l'auteur était alors en captivité dans un camp allemand. Le regard de Sartre sur la crèche. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. La Vierge est pâle, elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage est un émerveillement anxieux, qui n'apparut qu'une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Mais, à d'autres moments, elle demeure toute interdite et elle pense « Dieu est là ». Et elle se sent prise d'une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments, par ce fragment de leur chair qu'est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent des pensées étrangères. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie, si j'étais peintre. Puis j'essaierais de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Il était plutôt improbable de trouver ces mots chez un auteur aussi blessé. Je vous le dis, la grâce est efficace pour qui l'accueille. Il suffit de se mettre à genoux devant un nouveau-né. Joyeux Noël et bonne année.